Sébastien, merci beaucoup pour cette présentation et merci à toute l'équipe de nous avoir offert un programme de si grande qualité où aucun moment ne me semble être une parenthèse et où tout m'apparaît avec évidence comme marqué du sceau du talent et de la cohérence intellectuelle, puisque en effet tout est adapté autour du thème de la musique. Et Sébastien Pignon a raison de dire que nous commençons en beauté avec Marie Ferrante, puisque son dernier livre, le livre de Petru, est ce qu'on pourrait appeler, nous en avions parlé avec Vanda Mastor il y a un an, je crois déjà, l'été dernier, ou deux ans, comme le temps file, exactement, est un livre monde, un livre qui brasse toutes sortes de centres d'intérêt, qui s'appelle donc le livre de Petru, qui est offert, ce livre de Petru, il faut considérer le titre comme déjà tout un programme. Alors, ce livre de Petru, c'est un livre qui est offert à Petru Guefuch, qui est écrit par Petru, en même temps que Marie, qui est en quelque sorte un tombeau, au sens malarméen du terme, offert à Petru mort. Et la problématique de ce livre est immense. Il brasse, c'est un, comme je le disais, un livre-monde qui brasse toutes sortes de problématiques, biographie, autobiographie, politique, sociologie, littérature, musique. Et c'est ce qui va nous servir de fil rouge à notre petit dialogue de ce matin. Alors, ce livre de Petru, Marie Ferrante, vous l'avez bâti avec essentiellement comme moteur, comme base de départ, c'est le problème de la voix, c'est-à-dire que c'est une polyphonie que vous nous avez offert. Il y a d'abord la voix de Petru. Comment expliquez-nous d'abord les raisons qui ont motivé ce dialogue qui fait la trame de base de cet ouvrage.
Merci Sébastien, merci à tous. En réalité, c'est la voix parlée de Petru. En réalité, Petru était mon ami et je connaissais sa finesse, sa subtilité, son intelligence. Or, il était perçu par beaucoup comme quelqu'un qui chantait bien. Or, Petru n'était pas seulement un homme qui chantait bien. Il chantait bien parce qu'il était cet homme-là. Et ça fait une grande différence. Et c'est vrai, d'ailleurs, pour tous les grands artistes, et il en était un. Alors, c'était très intéressant d'échanger à ce moment-là de sa vie, c'était à sa demande d'ailleurs, parce que lui-même n'avait plus la voix aussi parfaite qu'il avait. Il y avait une fêlure, et cette fêlure, elle n'était pas que vocale aussi, je pense qu'il y avait une réflexion sur la société dans laquelle on vit, sur sa vie à lui aussi. Et moi, j'avais envie, enfin, il n'y a pas beaucoup de choses préconçues. En réalité, je me suis laissée absolument porter par la conversation avec lui. Donc, c'est un livre de conversation, essentiellement. Mais j'avais envie de faire entendre sa voix dans la langue qui était la sienne, c'est-à-dire le corse. Et donc, il y a beaucoup de Corses. Il y en a moins que ce que j'aurais souhaité, mais c'était compliqué aussi, parce que sinon, il y aurait eu le double de pages. Et c'était, en termes éditoriaux, assez compliqué. Mais enfin, le Corse existe. Il existe au point, d'ailleurs, que si on ouvre ce livre, on verra que c'est le livre de Petru, et c'est au livre dit Petru, même le titre lui-même. Hein, donc, il y a une forme d'affirmation, d'équivalence des langues. On dirait que ce n'est pas une nouveauté et ça devrait être comme ça, mais le fait est que les langues minorées ne sont pas perçues comme ça. Et l'art de Petru, l'art vocal de Petru, n'était pas aussi perçu comme un art, tout simplement, alors qu'il en était un. Et je crois qu'il y a un grand malentendu, et je voulais lever des malentendus au fil de nos conversations. Et un de ces malentendus, d'ailleurs, portait sur la tradition, sur le terme tradition. C'est très intéressant parce que, comme je savais que j'avais échangé avec Marie-Hélène à ce propos, tradition et musique, hein, on ne parle pas de tradition morale ou religieuse. Hein. Mais en réalité, je crois qu'il y a eu là un quiproquo en termes de traduction. Pour Petru, la tradition ne recouvrait pas du tout le sens un peu rigide, très connoté, que ça a dans la langue française. Je veux dire par là que il aurait dû dire héritage. Parce que il était évidemment, on peut dire, imprégné par cet art vocal depuis l'enfance, quasiment. Il avait été adoubé par ses pères, qui étaient les chantres de Sermane. Voilà. Et comme on est dans un monde où ça paraît informel, parce qu'il n'y a pas une institution, mais en réalité, il y a une hiérarchie, et il y a un adoubement, et il y a l'accord des chantres pour pouvoir chanter. Et Petru racontait quel trac il avait eu la première fois que son oncle était venu chercher à la fontaine pour lui dire « Doumen et Gaboloué dit à messe ». Ça voulait dire « tu vas chanter à la messe ». C'était, il entrait dans le cœur, en quelque sorte, des chantres. Bon, alors, c'était une sorte de passage initiatique, et il disait qu'il avait eu la gorge serrée. Il avait pris, je dis pris, c'est une traduction du corse, il avait entonné un chant très court, c'était le pire, je crois. Mais il avait eu, il se rappelait encore cette émotion et la gorge serrée. C'est-à-dire que le ressenti le physique qu'il avait éprouvé. Donc, il disait la tradition sans création est une coquille vide. Ça, c'est intéressant. Parce que on a souvent enfermé cet art vocal, justement, dans une tradition rigide dont il n'arrivait pas à s'extirper. Or, la dernière chose qu'a fait Petru, c'est une messe des morts. Il a composé une messe des morts. À partir, effectivement, de son héritage vocal. Comme on peut composer une sonate, ou un concerto, ou ce qu'on veut, une symphonie, selon le cursus et l'éducation, en quelque sorte, l'apprentissage qu'on a pu avoir. Donc ça me paraît très intéressant de sortir de ce schéma, de cette vision d'une tradition réductrice, et dont Petru, par exemple, ou certains d'entre eux, de ces chanteurs-là, auraient été les garants, ou les cerbères, plutôt, parce qu'ils ont pu être perçus aussi comme ça, parce que finalement, Petru s'est toujours battu pour une liberté de la forme. Et pour, je veux dire que, je me souviens quand il y avait eu un symposium à l'université, d'ailleurs, sur le chant, hein, il avait un peu de mal avec les ethnomusicologues qui réduisaient souvent le chant à un acte social, à une fonction sociale, qui n'auraient pas eu, qui auraient ignoré l'identification des artistes. Or, il se trouve que souvent, Petru disait que « Oars di vilipet » ou « somic » enfin, etc. Donc, s'il n'y avait pas eu, évidemment, cette référence, elle concernait un milieu très restreint, et c'est pas comme quand on cite Mallarmé ou Flaubert, hein, mais ça voulait dire qu'effectivement, il y avait la reconnaissance d'un artiste qui avait voulu consciemment, c'est ça là, hein, c'est élaborer quelque chose de façon consciente, entre autres choses, en l'occurrence, donc qui avait voulu consciemment imprimer son style. C'est très important. Petru qui parlait simplement, mais qui parlait précisément, parlait aussi d'Undiemic Estetico. Or, Estetico, c'est un mot savant. Il aurait pu dire Undiemic Avallo. Il disait Estetico. C'est-à-dire qu'il y avait une référence directe aussi à une forme d'art et d'expression de l'art. Donc, pourquoi il était un peu agacé, voire beaucoup, par l'institution des musicologues, enfin, par la vision. Parce qu'en réalité, il trouvait que coller un discours savant sur cette forme, ça ne l'explicitait pas. Et je dois reconnaître que moi, je lui donnais raison. Je veux dire, parler des mélismes, enfin, etc., tout ça. Ce discours savant, pour moi, comme pour lui, mais c'est lui qui m'en a fait prendre conscience, c'était une façon d'occulter l'essentiel. C'est-à-dire que c'était d'abord une expression d'une humanité, d'une histoire, d'un lieu, d'une façon d'être, pas seulement une façon de chanter qui aurait été belle. Elle était belle parce qu'elle allait au-delà même de celui qui portait le chant.
Dans l'ouvrage, on voit qu'il y a une évolution de la vision de la papière qui est d'abord un cri instinctif appris par Petru, en fait, un héritage que vous lui enviez, parce que vous n'avez pas cet héritage étant plus citadine. Ensuite, l'expression de tout un peuple, d'une voix collective, de ses rituels, de sa civilisation propre, et ensuite une revendication politique. Et est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté à l'intérieur même du livre? Elle est mentionnée par Pedro. Lorsque nous entrons sur scène, à la fin, dans les derniers temps de Kant, est-ce qu'ils ont gardé la pureté du combat originel ou est-ce que ce combat est fait pour être porté sur scène? Il semble qu'il y ait à un moment une sorte d'hésitation.
Ah oui, il y a plus qu'une hésitation, il y a un regret de la part de Pedro, c'est tout à fait vrai, Marie-Hélène. C'est-à-dire que, en réalité, Pedro s'est rendu compte avec le temps qu'ils avaient voulu se perdre et abadier, là ça voulait dire la faire connaître ailleurs, donc il la chantait sur scène, et à ce moment-là, c'était, bon, avec des modifications qui portaient sens, je veux dire que le cercle était rompu, ce qui déjà aurait dû les inquiéter, hein, on se mettait en face du public, mais on n'était plus en cercle. Bon. Mais au-delà de ça, il y avait une telle beauté chez du chant que ça, tout ça passait très bien. Mais il s'est rendu compte qu'il y avait un lien au lieu d'où était issue la palier, qui était rompu par la scène. La scène qui était une sorte de non-lieu, on peut dire, puisqu'elle pouvait s'installer partout, etc. Alors c'était sa grande qualité, c'est ce qui permet de faire connaître, mais c'est ce qui coupe le lien originel. Et ce lien originel, il disait que les gens venaient à Sermann pour écouter.
Et qu'ils allaient devant.
Et voilà, et ils n'allaient plus à Sermann. C'est-à-dire qu'il y avait presque l'idée d'une forme de désert artistique dont il aurait été... finalement un des acteurs à son grand regret, quoi. Voilà, il fallait il y avait plus ce mouvement, cette énergie, ce désir, parce que c'est ça, d'aller dans le lieu où ça se produisait, où la vie était elle-même produite. Donc il avait participé à l'extinction aussi de quelque chose, et ça il en était très conscient.
Oui, ça c'est un très beau paradoxe en fait, qui est évoqué ici dans son ambiguïté, dans sa complexité. Dans la volonté de ressusciter ce monde, il y a aussi la volonté de freiner une certaine décadence. Le thème de la décadence, du regret, de la perte du paradis perdu, hante cette œuvre, quel qu'il soit, que ce thème soit réfracté au niveau du village, de la communauté, de la Corse en général, ou bien qu'il prenne des ramifications beaucoup plus amples, puisque à l'intérieur de l'œuvre, cette œuvre qui est à la fois une œuvre vocale, puisqu'on nous restitue la voix de Pedro, puisqu'on entend la palier, la directe, puisqu'on l'analyse et on l'entend, est aussi une œuvre littéraire, et vous appelez à la rescousse des pilotis intellectuels que sont les voix de grands écrivains, notamment Pasolini, qui est véritablement le fil rouge et qui montre qu'il y a un paradis perdu, une décadence, une perte de la ruralité qui explique une transformation générale au niveau plus vaste. Donc ce lien est très beau à l'intérieur de l'œuvre. Cette œuvre se caractérise par une très riche bibliographie qui n'est pas du tout une bibliographie comme un chapelet prétentieux de citations, mais simplement le lien entre des esprits qui tous vivent à des époques différentes, la même réalité, et qui servent, comme on veut dire, comme au sens baudelairien, de phare. Hein, et c'est extrêmement émouvant, cette famille de pensée, qui est elle aussi obsédée, comme Chateaubriand, par ce thème de la décadence.
Et c'était assez beau aussi, parce que à cette Padier, là, qui est aussi le cœur du livre, hein, cette interprétation qu'avait Pedro de la Padier, répond ce qu'on oublie souvent, d'ailleurs, c'est la poésie de ces textes. Et c'était une sorte de contre-champ au sens propre et au sens figuré de la Padier, là, que la poésie de Lorca, de Pasolini, ou les textes de Benjamin, etc. Bon, il y en a une quantité. Ou les poètes russes, je dis d'ailleurs que Sermann est plus près de la Russie que de la France, hein, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant aussi là-dessus. Donc, c'est vrai que on arrive à mettre en parallèle la poésie, et cette poésie de Pedro lui vient aussi de cette immersion qu'a été la Padier. Parce que Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a privilégié le son. Hein, mais le son, c'est aussi de la poésie, d'une certaine manière, spalmodiée. Hein. Et quand moi j'ai découvert à proprement parler, puisque ce son m'occultait un peu le sens, je dois dire, de la Padiel, quand j'ai découvert certains textes de la Padiel, que Petro me disait d'ailleurs, par parenthèse, la plupart du temps quand ils chantent, alors qu'ils connaissent le texte naturellement, souvent ils le disent avant de le chanter, à celui qui va prendre le chant. Hein. Il y a là une sorte de... Il y a des codes aussi hein, entre eux qui seraient très intéressants à analyser. Pourquoi ? Ce n'est pas pour se remémorer le texte, en aucune façon. C'est une façon de s'imprégner de poésie, je pense, davantage. Et la sensibilité de Pedro à la poésie lui vient absolument de ça. Et ce qui était intéressant, donc, comme contrepoint de la Padiel, en contrepoint, c'était de lui faire découvrir ses poètes. Et souvent... y compris les poètes japonais, enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui me faisaient penser à la Padiel, moi. Et il me disait toujours, c'est Diebal Odieber. C'est ça, c'est beau et c'est vrai. Parce que, en réalité, la beauté de la Padiel, de l'art vocal de Petro, c'était aussi la beauté de la vérité de l'homme. Il n'y avait pas de différence entre l'homme et l'artiste, en fait, pour le meilleur et le pire, parce que parfois il était. Il pouvait être aussi insupportable, hein, je veux dire, mais il était comme il était. Mais il était. Et il était vrai. Il portait sa vérité toujours. Et c'est pour ça qu'il chantait comme ça aussi. Je pense, hein.
Oui, c'est ça. Il y a à l'intérieur de cette œuvre une authenticité complète des deux protagonistes, c'est-à-dire de Petro Guelfucci. Et vous de Marie Ferrante, car il y a une autre voix qui porte à la fois la parole écrite et la parole orale, c'est la vôtre, qui chemine, vous cheminez aux côtés de Petro, vous l'encouragez, et votre voix et la sienne, différentes, puisqu'elles appartiennent à deux registres complètement différents, vous appartenez au registre de la ville, du français et de l'écriture, lui au registre de la ruralité, du Corse et... de la ruralité de Sermane, c'est un duo qui a dont nous suivons la vie à l'intérieur de l'œuvre. C'est ça qui est très beau, avec une énorme authenticité.
Oui, je crois que on était on pouvait
complémentaire.
Voilà, on était complémentaires et on ne pouvait faire ce livre que comme ça, parce que si c'était autrement, ça n'aurait eu aucune valeur réelle. Et l'attachement à la vérité, ne fût-ce que celle du moment, hein, je veux dire, en tout cas, à la vérité de l'expression, c'était quelque chose qui nous touche. Enfin, on n'y a même pas pensé, en réalité, ça s'est fait comme ça. Hein. Ça s'est fait, on a pris un peu tous les chemins de traverse, ça c'est une chose, mais on a pris sincèrement tous les chemins de traverse. On n'a rien... et je me souviens... alors d'une chose assez étrange aussi, on voulait faire une vidéo de Padiel et Petro dit bon on n'a qu'à la chanter à l'église, voilà bon. Et quelqu'un, jeune homme, dit ah mais normalement la Padiel ça se chante pas à l'église. Et Petro il dit on s'en fout. Finalement c'est pour ça que je dis la tradition. Il faut bien comprendre que c'était un carcan dont lui se défaisait très facilement. Et pourtant, c'est vrai qu'on aurait dû aller à la fontaine, enfin, je veux dire. Mais ça aurait été une reconstruction du vraisemblable. C'était pas grave de chanter à l'église, finalement.
C'est ça.
Voilà. Et puis même, ça lui donnait une valeur spirituelle, dont ces êtres-là, ces chanteurs-là, étaient animés quand ils chantaient la Padiel.
C'est ça. Voilà. En même temps, vous n'êtes pas seul en duo, puisque c'est une véritable polyphonie et ce livre est tout bruissant des voix. Alors, il y a les voix de ceux qui vous entourent, les voix chères qui se sont tues, les souvenirs de tout ce que vous avez aimé, qu'ils soient concrètement personnes que vous avez connues, ou bien être écrivains que vous avez tellement connus intimement via les livres, qui sont des personnes toujours vivantes. Il y a aussi Fabien Landron, notre stendhalien, ne me démentira pas, la voix heureuse du quotidien, la voix quasi napolitaine, qui est musicalité permanente. Et cette musicalité de la Corse, vous l'avez saisie, et Petro l'a saisie, et vous le restituez ici, avec tous les bruits d'avant,
les bruits, les voix des villages, la voix à Serman, les voix des fêtes bastiaises, mais aussi les bruits du quotidien qui sont une mélodie. Donc le livre, il est traversé de mélodies, de musique, de part en part.
Il était très important pour moi de reconstituer mentalement et essayer de rendre ce qu'était chanter, c'était une expérience du monde. C'était expérimenter la réalité concrètement. C'était avoir un lien complet avec les choses. C'était pas chanter, ce n'était pas un acte séparé de la vie. C'était lié aussi bien au quotidien qu'au temps festif et de repos, qu'au temps religieux, etc. C'était quelque chose qui était complètement lié. Il y avait un lien et une vie, et donc cette vie était traversée effectivement de bruits nobles, comme dirait Chateaubriand, pour les opposer aux autres. Mais cette musique, elle nous a toujours accompagnés. Et Petru m'appelait pour y chanter au téléphone. Hein, je veux dire, alors ça, malheureusement, je ne pouvais pas le restituer dans ce livre, mais c'était merveilleux. Et il chantait mezzo voce, ce qui fait que sa voix, elle était, c'était miraculeux, quoi. C'était très très beau, hein. Quand il chantait la messe comme ça, des airs de messe, où il m'appelait, il me disait Adoudro Ougué. Voilà, c'est ça. C'était voilà, c'était très beau.
La voix, hélas, ne se comprend que en contrepoint du silence. Et le silence est très présent dès le début du livre, puisque vous faites référence au chant de la chouette, qui est le chant préféré de Petru dans la nuit. Mais ce silence est aussi un silence cosmique, puisque le livre est écrit comme un journal aussi de bord d'une expérience de silence cosmique qu'a été la crise du Covid et le confinement.
Oui, tout à fait, c'est très important. Parce que ça nous a permis de nous recueillir d'une certaine manière et de donc collecter. Et c'est pas pour rien que je commence par le silence. Je me dis ferme les yeux et il y a c'est le début du livre. Le livre est inauguré sur un silence, un silence habité. Et j'ai essayé de faire en sorte d'être à la hauteur de ce silence habité tout le temps. Je veux dire, c'était ça mon défi, moi. C'était de tenir l'attention de ce silence habité. Parce qu'il me manquait quand même quelque chose de phénoménal. C'était la voix de Petru.
La vie au téléphone, oui. Uniquement désincarnée.
C'est ça. Et puis la voix chantée aussi, parce que j'évoque beaucoup de ses chants. Et moi j'écris, mais on peut l'écouter naturellement, parce qu'on peut... j'essaie de donner des références, etc., pour l'écouter, mais... dans ce livre, quand j'écris, il manque ça. Il manque la chair, donc il fallait essayer de donner l'expérience
du... Elle a été bien rendue, voilà, cette chair, la voix, depuis 30 ans.
C'est ça que j'essaie de faire.
Oui, de ce point de vue, il n'y a pas de lacune. La lacune terrifiante, c'est le silence qui s'instaure petit à petit, puisque ce dialogue qui va être à deux voix va être amputé de la voix de Petru par la maladie et ensuite par la mort. Donc là, on arrive à l'intérieur de l'œuvre. La présence qui avait toujours été un leitmotiv de la mort symbolisée par la messe des morts qui préparait, mais qui s'impose tout à coup comme un blanc fatal. Ça a été une expérience profondément traumatisante pour vous, pour tous ceux qui ont vécu cette période, et que vous avez essayé de transmuer en immortalité de la voix de Petru couchée sur le papier grâce, cette fois, à la littérature.
Oui, tout à fait. Enfin, c'est ça qui m'a porté, achever ce livre. C'était très, très difficile. Mais il fallait le terminer pour qu'il paraisse, en fait. Et j'avais envie. C'était mon tombeau, au sens du 17e. Hein, oui, bien sûr. Parce que... d'ailleurs, ça a donné beaucoup de belles choses, et chaque fois j'ai toujours la joie que ça donne de belles choses. Évidemment, le regret que Petru ne soit pas là pour les apprécier, mais je pense que ce livre a compté dans sa vie, de toute façon, a été une joie dans sa vie. Peut-être tout simplement parce que c'était une des rares fois où il avait en face de lui quelqu'un qui respectait sa parole et pas seulement sa voix chantée. Je pense que c'est important.
Et à l'intérieur de l'œuvre, il y a cette problématique de l'écriture. Confronté à l'oralité. Donc ici, on voit que le livre montre, au contraire avec évidence, que ces deux arts, celui de l'écrit et la musique, sont absolument complémentaires et l'étoffe d'une même trame.
à fait. Et ça, c'était, ça m'est apparu en même temps que je l'écrivais, en réalité, parce que c'est pas maîtrisé absolument. Je veux dire que je me suis fiée à mon instinct, mais ça, c'était très intéressant d'ailleurs pour moi. C'était comme un peu une improvisation de jazz, plutôt, si on va faire, si on va pousser la métaphore. Je ne savais pas chaque jour de quoi on allait parler, il n'y avait pas de plan préconçu, etc. Mais je savais que je suivais quelqu'un qui avait l'art de la conversation déjà et qui pouvait m'amener sur des chemins de traverse et que moi je pouvais explorer ensuite, quoi, je veux dire. Donc c'était quelque chose comme ça qui me semblait évident, de cette complémentarité entre la littérature et la musique, et toutes sortes de musique d'ailleurs.
C'est ça, et la littérature permet de donner finalement à Petru l'éternité, l'immortalité, oui. grâce à cette œuvre qu'il a écrite et qui lui a offerte aussi.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué, parce qu'au fond, il y a sa voix parlée, qui est transcrite, donc il participe effectivement à l'écriture du livre. Il y a sa poésie, puisqu'il y a des textes de lui, il y a sa voix chantée. Bon, tout ça fait une sorte de tissu. D'ailleurs, c'est le sens premier de texte, hein, tissu.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est une sorte de tissu, et avec les ornementations, ce qu'on appelle dans la papier les rioucades. Et j'espère que parfois on entend celle de Petru, qui sont très belles.
On entend le livre en conclusion, que nous allons peut-être bientôt nous arrêter pour être conforme aux horaires, dans les temps. De bons élèves de ce point de vue. Le livre, effectivement, est à la fois une liberté jaillissante à tous les moments et portée par la maîtrise d'une organisation très forte qui le fait aller en tous sens, mais dans la rigueur d'une construction quasi mélodique, en quelque sorte. Petru a fait sa messe, et vous, dans ce livre, d'une certaine façon, vous faites aussi une messe. Hein. Vous organisez une sorte d'opéra vocal profondément maîtrisé, profondément beau et profondément varié, qui suit tous les chemins de la vie, jusqu'à le plus extrême, jusqu'à la mort, qui n'évite rien et qui, je trouve, transmet tout en beauté. J'ai été véritablement fascinée par le livre de Petru, parce que nous en avons fait ici une lecture extrêmement réductrice, puisqu'il a vocation d'être un livre bilan d'une époque, d'un homme, d'une vision, d'une réflexion, et il embrasse une thématique immense qui montre bien que la littérature et la musique sont Batista, à quoi lui elle incarne, sont véritablement sœurs, et que je voudrais aussi simplement signaler la richesse de la culture de Marie Ferrante, qui à partir de lectures philosophiques, sociologiques, purement littéraires, deux poètes, nous avons ici deux poètes corses profondément inspirés, deux poètes d'écrivains, vous avez fait vraiment de l'or à l'état pur de toute cette culture qui, au lieu d'être quelque chose de figé, est quelque chose de profondément humain, animé, et qui vient enrichir à la pensée de Petru, qui est une fulgurante personnelle.
Mais parce que, en fait, il y avait cet aiguillon de l'échange avec Petru qui fait qu'il découvrait en même temps, quand je lui proposais des extraits de poètes japonais ou de Garcia Lorca, etc., il découvrait cette poésie. Et c'était une joie absolue pour moi, parce que il n'était pas du tout fermé et qu'il se reconnaissait dans cette poésie. Donc c'était absolument... Et ça, c'était magnifique. J'en avais d'ailleurs, je lui en savais gré, parce que c'était magnifique cet échange où la poésie, tout d'un coup, à travers ce regard neuf, puisque il découvrait cette poésie que je lui disais au téléphone. C'était magnifique, parce que des fois il disait, bon, redis-moi-le, voilà. Et alors, il y avait de tout, et moi j'étais je baignais dans un bain de poésie.
Et il me semble que la journée d'aujourd'hui, Sébastien, c'est vraiment l'illustration du combat de Marie Ferrante et de Petru Guelfucci, c'est-à-dire que l'université, enfin la culture, au contraire, est un monde d'une richesse infinie qui ne tue pas le naturel, qui ne tue pas le jaillissement, mais qui permet au contraire de lui donner une densité merveilleuse. Voilà, je voulais vraiment remercier Marie Ferrante pour d'être venue aujourd'hui, parce qu'il me semble qu'elle est une introduction à ce que vous allez vivre aujourd'hui, à savoir ce brassage des cultures, des mélopées, des mots, et dans un miracle toujours renouvelé.
Merci Marie-Hélène.